Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
De Constantinople II à la crise du monothélisme. On a souvent fait remarquer que les grands conciles qui ont précisé la foi au Christ, Dieu et homme, ont pratiqué un mouvement de balancier. Le premier concile christologique, celui d'Éphèse, met l'accent sur l'unité du Christ, alors que le suivant, celui de Chalcédoine, souligne la distinction des natures. Constantinople II, en 553, opère un retour au point de vue de l'unité, et Constantinople III, en 680-681, accentuera à nouveau la distinction. Nous allons maintenant parcourir le chemin entre ces deux derniers conciles. Comme nous l'avons vu, Constantinople II a une histoire assez sombre, marquée par la persécution contre le pape Vigile, dont Justinien avait même exigé la condamnation par le concile. Malgré cela, Constantinople II est un concile écuménique, car il a été approuvé après coup par Vigile et par son successeur Pélage, et les églises d'Orient et d'Occident ont continué à s'y référer, comme à une interprétation de Chalcédoine faisant autorité, alors même que les condamnations qu'il a prononcées contre des personnes sont tombées en désuétude. Le but du concile, rappelons-le, était d'éviter qu'on voie dans le concile de Chalcédoine une revanche de la christologie dualiste de Nestorius. C'est pourquoi on multiplie les mises au point pour relier Chalcédoine à Éphèse. Le concile rappelle donc que l'expression « unipostase » signifie une unité rigoureuse de subsistance. Il souligne la portée exacte du titre de Marie, Mère de Dieu. Marie est la mère du Dieu Verbe qui s'est incarné en elle. Il commente alors avec précision l'expression « en deux natures ». Celle-ci a pour but de signifier la différence maintenue des natures du Christ, puisque ces dernières s'unissent sans se confondre et sans cesser d'être ce qu'elles sont par elles-mêmes. Le Verbe ne s'est pas changé en chair, ni la chair dans la nature du Verbe. Mais elle n'entend affirmer aucune division ou séparation des natures, puisqu'on doit reconnaître en elle un seul Christ, on les énumère simplement en fonction de leur altérité, mais dans leur existence concrète, elles ne sont qu'une seule réalité subsistante. L'enjeu de ces précisions, qui vont toutes dans le sens de l'unité du Christ, est de rappeler que la dualité n'est qu'un moment de la considération du Christ qui part de son unité et retourne à son unité. Ce qui veut dire que les deux natures du Christ ne sont pas à mettre sur le même plan, et que le Christ les réunit à ce point dans sa personne que l'on peut lui approprier tout ce qu'il vit dans son humanité. L'appropriation la plus vigoureuse est celle-ci à laquelle tenait beaucoup Justinien, un de la Trinité a souffert dans la chair. Le Concile l'exprime en ces termes : Notre Seigneur Jésus-Christ, crucifié en sa chair, est vrai Dieu, Seigneur de la gloire, et l'un de la Sainte Trinité. Il y a là un développement intéressant par rapport au Concile de Chalcédoine, qui ne faisait aucune allusion à la passion de Jésus. Malgré ces précisions, de nature à rassurer les monophysites, ceux-ci ne désarmeront pas. Il faut dire que les théologiens les plus doués se rencontraient chez eux, en particulier Jacques Baradée, dont nous parlerons dans un instant, et Sévère d'Antioche, qui était orthodoxe sur le fond, mais qui condamnait comme nestorien tous les partisans de Chalcédoine, allant jusqu'à préparer pour l'empereur une déclaration de foi qui condamnait non seulement le concile, mais Saint Léon lui-même. Cependant, malgré la protection dont il jouissait auprès de l'impératrice Théodora, Sévère sera chassé de Constantinople et retournera en Égypte où il mourra en 538 et où il sera vénéré comme un grand saint par les monophysites. Malgré les nombreux conflits internes qui les ont divisés, il est en tout cas devenu comme leur père fondateur, ainsi que l'a noté Henri Maroux. Je cite « Sévère d'Antioche n'a pas seulement rétabli la situation de son parti, il lui a donné un équipement doctrinal, il a fixé sa théologie. On peut dire que le monophysisme historique, celui qui va finalement se perpétuer jusqu'à nos jours, est le monophysisme de Sévère. » Le Rubicon du schisme ne sera cependant pas franchi par Sévère lui-même, mais par son cadet de 10 ans, Jacques Baradée. Consacré évêque à la demande d'un souverain arabe monophysite, protégé par l'impératrice Théodora, Jacques Baradé reconstituera la hiérarchie des évêques monophysites, persécutés par Justinien, en parcourant clandestinement tout l'Orient et en jetant ainsi les fondements d'une Église désormais séparée de l'Église catholique et qui subsiste jusqu'à aujourd'hui, l'Église dite jacobite. Au bout du compte, dans la période qui suit Constantinople II, ce sont toujours les évêques fidèles à Chalcédoine qui sont obligés de se justifier devant l'autre camp qui soupçonne Chalcédoine de nestorianisme et qui a des formulations très claires. Par exemple celle-ci, « Par sa nature, le Christ est Dieu, et s'il est devenu ce qu'il n'était pas, comme c'est écrit de lui, ce n'est pas d'homme qu'il est devenu Dieu, mais c'est de Dieu qu'il est devenu homme, tout en restant Dieu comme il était. » Citons encore Irénée Maroux. De façon plus profonde, et nous retrouvons là l'inspiration hautement spirituelle qui anime les monophysites, leur pensée se développe à partir d'une contemplation du Verbe éternel. C'est toujours sur lui, sur sa divinité qu'on médite, lorsqu'on passe de la Trinité à l'incarnation, du Fils de Dieu à Jésus-Christ. De celui-ci, on exalte avant tout l'unité, les deux natures ne s'y distinguant qu'en vertu d'une distinction logique, non réelle. Mais cela explique aussi par avance les problèmes qui surgiront au siècle suivant. Sans aller jusqu'à oser contester la nature humaine du Christ, on trouvera une échappatoire en affirmant que toute son énergie, comme on dit, c'est-à-dire tout le dynamisme de son action, est divin. En d'autres termes, on va déplacer le problème du domaine de l'être à celui de l'agir. La mort de Justinien en 565 inaugure pour l'Empire d'Orient une période de troubles, avec la perte de nombreux territoires. L'ordre byzantin était à peine affermi que déjà les Lombards, un des peuples germaniques restés les plus barbares, se mettaient en route pour envahir l'Italie en 568. Ils s'emparent rapidement de la plaine du Pô et s'infiltrent dans la péninsule. Sans doute, ils ne peuvent chasser Byzance, puissance maritime, de ses points d'appui, les îles de Vénétie, Ravenne, Gênes, Naples, mais ils s'installent dans l'inexpugnable dorsale montagneuse de l'Apennin. Dès 570-571, les voici à Spolète, Bénévent, Rome est menacée. À nouveau, la guerre règne à l'état chronique, avec son cortège de souffrances, pillages, razzias, famines, épidémies. Après de nombreuses et infructueuses guerres menées contre les Slaves, c'est un dictateur nommé Phocas qui prend le pouvoir à Constantinople en 602. Il persécute les Juifs et les monophysites, et en 605, il doit faire face à la fois à une attaque des Perses qui ravageront une partie de l'Empire, en particulier la Terre Sainte, et aux incursions des Slaves, des Avars et même des Mongols. La situation paraît désespérée, mais l'Empire sera sauvé par Héraclius, gouverneur de Carthage, d'où il organise la révolte contre Phocas. Arrivé à Constantinople en octobre 610, Héraclius détrône le tyran qui est mis en pièces par la foule, il est proclamé empereur à sa place et couronné par le patriarche Sergius, récemment élu. Héraclius et Sergius sont deux grandes figures qui collaboreront étroitement pendant un quart de siècle. Voici ce que dit d'eux un historien. Héraclius était un homme à se laisser abattre. Sergius lui redonnait espoir. Héraclius héritait de finances appauvries et avait grand besoin de fonds pour organiser sa lutte contre les Perses. Sergius mit les richesses de l'Église à sa disposition. Les opérations militaires d'Héraclius contre les Perses le retenaient au loin. Sergius, avec le prince Bonus, prit en charge la capitale et anima la résistance, finalement victorieuse, aux assauts des Avars et des Perses. Héraclius, favorisé de la connaissance de la divine doctrine, selon les mots de Sergius, avait à traiter au cours de ses campagnes avec des chefs monophysites. Sergius lui fournissait les textes sur lesquels il pouvait s'appuyer. La lutte contre les ennemis extérieurs sera longue et difficile. Constantinople est prise en étau entre les Perses sur la mer et les barbares sur terre. Dans un moment de découragement, Héraclius tente même de fuir en Occident, mais il en est dissuadé par Sergius, et la prise de Jérusalem par les Perses le 5 mai 614, au lieu de l'abattre, le galvanise. Le moment est venu d'une véritable croisade contre ces impies qui ont osé faire main basse sur la croix du Christ après avoir soumis l'Égypte et Alexandrie. La situation sera rétablie grâce à un traité coûteux avec les ennemis avares et slaves qui permettra de rassembler les forces pour combattre les Perses dans une guerre sans merci qui s'achèvera en 628 par une totale victoire des Byzantins avec restitution des territoires perdus et de la relique de la vraie croix et un pèlerinage triomphal d'Héraclius à Jérusalem. Héraclius profitera de sa victoire pour entreprendre des réformes qui marquent le passage de l'Empire d'Orient à un État totalement grec, l'empereur prenant lui-même le titre grec de Basileus, qui signifie « roi », et la langue grecque se substituant au latin pour les actes officiels. Ces changements sont importants pour l'histoire de l'Église, car ils contribueront à l'éloignement culturel de l'Orient par rapport à l'Occident. Mais la paix si difficilement obtenue sera de courte durée, puisqu'au bout de 5 ans seulement, les Arabes entreront en scène, portés par une toute nouvelle religion qui s'appelle l'islam. Héraclius est déjà sexagénaire, un âge avancé pour l'époque. Après une première incursion repoussée en 629, les musulmans reprennent l'offensive à partir de 633 sous la conduite d'Abou Bakr, et malgré une alliance tardive avec l'ennemi perse d'hier, les Byzantins sont écrasés à la bataille du Yarmouk, entre la Syrie et la Jordanie actuelle, en août 636. Cette défaite fait tomber entre les mains des musulmans la Syrie, la Palestine et bientôt l'Égypte, qui sont perdus pour toujours. À la mort d'Héraclius, le 11 février 641, l'Empire byzantin se trouve réduit à la Turquie et à la Grèce actuelle, avec quelques possessions dans le sud de l'Italie. Les patriarcats d'Alexandrie et de Jérusalem ne seront plus jamais placés sous l'autorité de Byzance. Cette progression spectaculaire s'explique par l'affaiblissement militaire des Byzantins, mais elle n'est pas sans rapport aussi avec les divisions religieuses de l'Empire, où les populations monophysites de Syrie, de Palestine et surtout d'Égypte perçoivent souvent les conquérants musulmans comme une alternative souhaitable, et selon eux temporaire, à la domination de Constantinople. Un auteur monophysite syrien écrira plus tard « Le dieu de la vengeance nous a délivrés des Romains par le moyen des Arabes ». Et un historien éthiopien écrit de son côté « J'étais dans ma ville d'Alexandrie et trouvais pour le moment la paix et la sécurité après les inquiétudes et les persécutions provoquées par les hérétiques byzantins ». Dimitri Obolensky ajoute un commentaire qui nous introduit dans les nouveaux débats théologiques à l'origine du troisième concile de Constantinople. Je cite « La conquête que firent les Arabes de provinces orientales de l'Empire sanctionna l'échec des tentatives que, durant les 2 siècles passés, les empereurs avaient faites pour regagner les communautés monophysites et pour leur imposer l'acceptation du concile de Chalcédoine, parfois par la persécution, parfois grâce à des compromis doctrinaux. Après sa victoire sur la Perse, Héraclius fit un effort résolu pour obtenir la loyauté des monophysites d'Arménie, de Syrie et d'Égypte, qui avaient joui d'un régime de faveur sous leur maître perse. Il commença à propager la doctrine du mono-énergisme qui semble avoir été inventée dans les premières années de son règne par Sergius, patriarche de Constantinople. En affirmant que le Christ a 2 natures mais 1 seule force active, énergie, cette doctrine semblait ouvrir la porte à un compromis entre orthodoxes et monophysites. Les efforts d'Héraclius eurent d'abord du succès. Même le pape Honorius fut assez convaincu pour donner son appui. En 633, il semblait que l'Empire unanime acceptait formellement l'orthodoxie de Chalcédoine. Cependant, cette unanimité, fondée sur l'équivoque théologique et sur l'opportunisme politique, ne pouvait pas durer longtemps. Ce nouveau conflit suscitera une clarification théologique d'une très grande importance, qui portera cette fois non plus sur l'être du Christ, mais sur son agir. Nous en parlerons la prochaine fois.